Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, au fil des pages, dans cette nouvelle émission, vous propose de vous intéresser à la fabrique des idées, titre de l'ouvrage de Marc Jeanneraud de l'Académie des sciences, publié en mars 2011 aux éditions Odile Jacob. Sous ce titre se cache l'histoire des neurosciences cognitives, domaine qui traite notamment de la naissance, de la vie et de la mort des idées. Si la discipline des neurosciences cognitives est récente, elle est née dans les années 50, elle s'est véritablement unifiée dans les années 70 et elle le doit en partie à la neuropsychologie, science qui étudie les conséquences de lésions cérébrales sur le comportement, permettant ainsi de faire le lien entre l'anatomie du cerveau et le fonctionnement de l'esprit humain analysé par la psychologie cognitive. Marc Jeanneraud, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Academy. Vous êtes avec nous par téléphone, comme peuvent l'entendre nos auditeurs. Vous êtes professeur émérite de physiologie à l'université Claude Bernard de Lyon. Vous avez dirigé l'unité vision et motricité de l'INSERM jusqu'en 1997. Et vous avez fondé l'Institut des sciences cognitives, unité du CNRS, que vous avez dirigé jusqu'en 2003. Et comme j'ai pu le dire en préambule, vous êtes également membre de l'Académie des sciences. Votre ouvrage est le témoignage de 50 ans d'histoire de neurosciences à travers votre expérience. Jean-Didier Vincent, votre confrère à l'Académie des sciences, qui a rédigé la préface, a écrit qu'il s'agissait d'un récit de voyage au bout d'un itinéraire scientifique parcouru des années 60 à nos jours. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre, Marc Jeanneraud ?
Écoutez, quand on a fait un tel parcours et quand on y a recueilli toutes les satisfactions que j'ai recueillies, on a envie de le faire partager. Donc, c'était la première motivation, c'était faire partager ce bonheur de la recherche à d'autres personnes. L'autre motivation, si vous voulez, c'était de raconter, effectivement, parce que c'est un document, de raconter comment ont émergé des disciplines comme la neuropsychologie, les neurosciences cognitives, la neuroimagerie, qui sont en quelque sorte presque le trépied actuel des neurosciences qui s'intéressent au cerveau et au comportement. Donc pour moi, c'était très important de ne pas laisser passer cette occasion d'écrire ce livre.
Justement, dans votre ouvrage, dans la première partie de votre ouvrage, vous expliquez la difficulté au début pour la neuropsychologie, donc dans les années 60, de trouver sa place entre la neurologie et la psychologie. Quel a été le facteur déclencheur pour que la neuropsychologie devienne une discipline à part entière ?
Il y a beaucoup de chance et de hasard dans la réponse que j'essaye de faire à votre question. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un jour une décision de créer cette discipline. Il y a eu une évolution progressive de la neurologie telle qu'elle se pratiquait dans les hôpitaux. On s'est rendu compte que c'était insuffisant pour décrire le comportement. Il y a eu une percée en quelque sorte de quelques personnages importants et originaux qui ont en quelque sorte apporté de nouveaux éléments, de nouvelles qui ont créé les conditions d'une espèce d'interdisciplinarité à l'intérieur de ces disciplines.
Comme Brenda Milner, par exemple.
Brenda Milner en est une, Henri Eckhan en est un autre. En France, ça a été même un des grands animateurs, un des animateurs principaux de cette discipline. C'est lui qui a remué, en quelque sorte, le milieu national et international pour aboutir à cette discipline. Alors ensuite, bien, vous suivez le processus normal, c'est-à-dire on essaye de créer une discipline proprement dite avec un enseignement, avec des postes, avec des recherches. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Mais l'esprit de la neuropsychologie était né déjà.
Dans votre ouvrage, vous expliquez que les neurosciences telles que nous les connaissons aujourd'hui sont issues de deux révolutions. La première, la prise en compte de la subjectivité, nous en reparlons un peu plus tard, et puis également l'arrivée de l'outil informatique. Donc effectivement, dans les années 70, on commence à utiliser les ordinateurs. Est-ce que vraiment les ordinateurs ont changé la donne pour permettre justement à la neuropsychologie de devenir ce qu'elle est aujourd'hui ?
Bien sûr, on n'est pas les seuls à qui les ordinateurs ont apporté une une telle révolution, surtout les disciplines scientifiques, donc qui disposent de ressources d'ingénierie et de matériel qui peuvent en quelque sorte manipuler les données. Ça a permis énormément de progrès, et en particulier ça a permis une espèce de dissémination de la recherche. Les gens ont pu communiquer leurs résultats, ont travaillé ensemble, etc. Donc ça, c'est une révolution. Maintenant, c'est devenu presque banal de dire que l'informatique a été une révolution, mais je crois que vraiment, c'est dans les sciences et peut-être même dans les neurosciences que cette révolution s'est manifestée la première.
Vous l'expliquez pareil dans votre ouvrage, La fabrique des idées, paru aux éditions Neil Jacob, que dans les années 60, au tout début, on se focalise sur la vision. Et justement, ça a été une partie des objets de vos travaux qui ont montré deux voies issues du cortex occipital. L'une est ventrale, c'est celle d'une vision consciente, et l'autre, à l'inverse, est dorsale, et donc par opposition, la vision est non consciente. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus pour nos auditeurs ?
Alors, il faut savoir d'abord que le cerveau du mammifère, comme le nôtre, est dominé en quelque sorte par la vision. Il y a à peu près les deux tiers de la surface du cortex cérébral qui répond à des stimulations visuelles. Donc ça, c'est très important. Ensuite, bon, dorsale et ventrale, ça correspond à des localisations anatomiques. Ventrale, c'est ce qui est vers l'avant, et dorsale, c'est ce qui est vers l'arrière. Et c'est vrai qu'il y a deux trajectoires dans le cerveau, une ventrale, une dorsale, qui sont spécialisées. Alors, la ventrale, elle est spécialisée dans la perception des formes, essentiellement, alors que la dorsale est spécialisée dans la perception des mouvements et des actions. Alors, le problème, c'est pas qu'il y ait de la spécialisation, c'est dans le cerveau, on le sait, et c'est presque une banalité. Ce qui est important, c'est pourquoi il y a une séparation entre vision des formes et vision des mouvements, vision pour l'action, en quelque sorte. Et ça, c'est une réflexion philosophique qui a été menée en partie avec Pierre Jacob, qui est un philosophe du CNRS, essayer de comprendre pourquoi on ne voit pas les choses de la même façon selon ce qu'on veut en faire. Voir ou percevoir quelque chose, identifier un objet, ça n'a pas la même signification que voir pour utiliser cet objet et le manipuler et l'utiliser.
Vous parlez de manipulation, justement, on y vient. Vous écrivez que percevoir l'objet, c'est le manipuler mentalement, avoir une identification motrice des objets visuels. On conçoit donc l'importance de la main pendant la saisie, et justement, c'est aussi une partie de votre travail sur, justement, l'action, et notamment l'action de saisir les objets.
Oui, mais évidemment. Alors là, je poursuis mon raisonnement. Si vous voulez, le cerveau est dominé par la vision, et de l'autre côté, du côté de l'action, il est dominé par la main. C'est évident que chez le primate évolué comme nous, la main représente une spécialisation extraordinaire qui nous permet de manipuler, d'agir en détail sur les objets. Donc, c'est pas étonnant qu'elle soit surreprésentée dans le cerveau. Alors maintenant, ce que nos travaux ont montré, c'est que on a tendance, en même temps qu'on prépare un mouvement ou en même temps qu'on est en train de le programmer, en quelque sorte, on se le représente comme si on le faisait mentalement. Et ça a un grand avantage, c'est que on peut comme ça voir, en quelque sorte, si le mouvement va être possible, si les obstacles vont pas se présenter, si l'action va aboutir, en quelque sorte. Donc il y a une phase de l'action qui est une phase de représentation, où on imagine, on pense, on agit en pensée en quelque sorte, et puis si tout va bien, on réalise le mouvement.
Oui, vous vous intéressez aux prémices de l'action.
Voilà, on réalise le mouvement ou on ne le réalise pas d'ailleurs, parce qu'il faut bien voir qu'un grand nombre de nos actions ne sont jamais réalisées, et le reste des actions en pensée.
Dans votre ouvrage, je vais vous citer page 81, vous parlez d'une autre caractéristique qui vous a beaucoup intéressé, en tout cas vous avez travaillé dessus, c'est donc le fait de travailler sur le pouce et l'index. Le pouce et l'index se livrent à un curieux jeu de chassés croisés, ils s'écartent d'abord progressivement l'un de l'autre, dès le début du mouvement de transport, jusqu'à ce que l'écart entre les deux dépasse la taille de l'objet à saisir, et puis l'écart se réduit jusqu'à s'accorder exactement à l'objet au moment précis de la saisie. En fait, vous nous décrivez comment nous saisissons un objet. Et c'est intéressant de voir à quel point on peut décortiquer chaque étape.
J'ai eu d'ailleurs de penser que jusqu'en 1970, personne n'avait vraiment regardé en détail les mouvements de la main d'un primate. Or, quand on regarde en détail, on voit justement que les deux éléments principaux de la main, c'est-à-dire le pouce et l'index, ont justement cette capacité représentationnelle dont je parlais il y a un instant, c'est-à-dire que en anticipant la taille de l'objet à saisir, ils préparent l'action et ils codent en quelque sorte la forme et la taille de l'objet pour réaliser une saisie correcte. Donc là encore, on a de manière systématique une tendance à réaliser l'action mentalement avant de la réaliser physiquement. Et c'est comme ça qu'on aboutit à des performances parfaites. Alors tout ça, évidemment, va à une très grande vitesse, évidemment, vous l'imaginez bien, puisque nos mouvements de la main sont très précis et sont très rapides.
Et c'est ce qui vous a permis de travailler sur l'apraxie, notamment, donc c'est-à-dire comment interpréter le fait qu'un patient se révèle incapable d'exécuter un geste sur commande alors qu'il va pouvoir le faire de manière automatique dans un contexte approprié?
Oui, ben, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des lésions du cerveau qui atteignent telle ou telle partie de la voie ventrale ou de la voie dorsale. Et celle de la voie dorsale réalise ce qu'on appelle des apraxies, c'est-à-dire l'incapacité à réaliser un geste. Alors, on ne sait pas si dans l'apraxie, si les patients sont capables de le réaliser mentalement ou pas. Quand on leur pose la question, en fait, quand on leur demande de faire semblant ou quand on leur demande d'observer le mouvement d'un autre pour déterminer si ce mouvement était correct ou pas, ils se trompent. Donc, ce qui est atteint, c'est non seulement leur capacité à exécuter le mouvement, c'est leur capacité à le planifier et à se le représenter. Donc, on atteint toute la chaîne, en quelque sorte, de la motricité par des lésions dans certaines régions du cortex, en particulier le cortex pariétal, qui fait partie de la voie dorsale.
Un autre thème sur lequel vous avez travaillé, en tout cas qui vous a beaucoup intéressé, c'est le thème de la musique, et notamment des musiciens, qui arrivent justement à transmettre leurs connaissances intériorisées, hein, je vous cite, transmettre leurs connaissances intériorisées qu'ils ont de la partition dans les gestes.
Mais la musique, évidemment, est intéressante, parce que pour quelqu'un qui travaille sur l'action, la musique, c'est de l'action. C'est à la fois intervenir sur le temps et sur le mouvement. Alors j'entends par musique tout ce qui concerne justement ici le mouvement, c'est-à-dire la danse, le jeu des instruments, le jeu du chef d'orchestre, la voix du chanteur. Tout ça, ce sont en quelque sorte des actions motrices qui vont transmettre la musique à l'extérieur. Alors chez un musicien, d'ailleurs tous les musiciens que j'ai rencontrés me le disent, ils réalisent la partition, ils jouent la partition mentalement, avant de la jouer physiquement, ils s'entraînent mentalement en quelque sorte. Il n'y a pas que les musiciens d'ailleurs qui font ça, les sportifs font ça aussi, mais les musiciens le font toujours. Et donc ils s'assurent mentalement que la performance doit être correcte et en même temps ils fixent dans leur cerveau les gestes à exécuter. Alors c'est pour ça que je me suis intéressé à la musique grâce à quelques personnes privilégiées que j'ai rencontrées et qui m'ont fait pénétrer dans le domaine de la direction d'orchestre ou du chant chez une cantatrice, etc.
À l'occasion de votre carrière, vous avez aussi eu l'occasion donc de travailler avec Michel Jouvet, qui est un de vos confrères à l'Académie des sciences et qui est mondialement reconnu pour ses travaux sur les rêves. Et vous vous êtes intéressé avec lui à la physiologie du sommeil et vous avez suivi des patients atteints de lésions importantes du système nerveux central et qui donc les a provoqués dans un coma profond. Est-ce qu'on travaille encore dans l'action quand on travaille sur des personnes qui sont dans le coma ?
Alors là, je fais référence au travail de ma thèse. Donc c'est,
au tout début de vos recherches.
Il y a fort longtemps, c'était le début de ma carrière de recherche. Jouvet est effectivement mon confrère à l'académie, mais avant, ça a été mon patron, mon maître dans le laboratoire. Et il m'avait confié un travail sur le sommeil chez des gens qui ont des lésions profondes du système nerveux, qui sont dans le coma. Alors le coma, c'est un espèce de sommeil, mais c'est pas le sommeil. Donc le challenge, c'était de déterminer si ces gens qui étaient dans le coma, c'est-à-dire qui n'étaient pas conscients et qui prêtaient plus attention à l'environnement extérieur, s'ils avaient des phases de sommeil, c'est-à-dire caractérisées par l'activité de leur cerveau qu'on peut enregistrer avec l'électroencéphalogramme, on peut voir si quelqu'un dort ou pas. Et voilà, c'était donc un travail de pionnier, d'ailleurs, qui n'a pas mené bien loin parce que ces gens avaient des lésions qui étaient tellement profondes et tellement importantes que ça avait détruit non seulement leur système de la vigilance, c'est-à-dire qu'ils étaient dans le coma, mais ça avait détruit aussi une partie de leur système du sommeil. Et non seulement ils avaient perdu leur vigilance, mais ils avaient en même temps perdu leur sommeil.
Alors, on arrive au terme de notre entretien. J'aurais voulu quand même que vous nous parliez du titre de votre dernier chapitre, qui s'intitule « Comment j'ai échappé à la psychanalyse ». Un titre assez humoristique. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ?
Oui, c'est effectivement humoristique, parce que j'ai rien contre la psychanalyse. Simplement, la psychanalyse a été... Il faut bien se placer dans le contexte des années 60-70, où la psychanalyse était complètement dominante dans les études de psychiatrie. Alors, comme j'étais neurologue, j'étais proche de la psychiatrie, je me suis beaucoup intéressé à la psychanalyse, j'avais des amis qui étaient psychanalystes, etc. Et on a beaucoup discuté pour savoir si la psychanalyse avait découvert quelque chose qui avait une valeur d'explication du mécanisme du cerveau, ou bien s'il fallait chercher ailleurs. Et pourquoi j'ai échappé à la psychanalyse, c'est que peut-être en n'étant pas praticien et en n'étant pas psychanalyste moi-même, j'ai pas eu à, en quelque sorte, à endosser tout le raisonnement psychanalytique et j'ai pu m'en séparer et j'ai pu décrire des mécanismes du cerveau qui expliquent le comportement aussi bien que la psychanalyse. D'ailleurs, la psychanalyse maintenant a un petit peu perdu sa vitesse de croisière, c'est devenu une discipline un peu plus confidentielle. Et je pense que c'est très bien comme ça. Quand elle était là au titre d'une explication généralisée du comportement, qu'elle intervenait dans les sciences humaines partout, dans la politique, c'était un petit peu une exagération. Tandis que maintenant, je crois qu'elle est à sa place véritable.
C'était un effet de mode.
C'était un effet de mode et maintenant elle est à sa place véritable, c'est-à-dire c'est une technique pour guérir les gens. Je crois qu'il ne faut quand même pas oublier que c'était ça au départ.
Et entre psychanalyse et psychologie cognitive, maintenant, c'est toujours un peu « je t'aime, moi non plus » ou maintenant les choses
oui,
sont tellement apaisées?
Oui, ça a été comme ça pendant effectivement assez longtemps. Il y a eu une réaction très forte des psychanalystes contre la psychologie cognitive. Maintenant, au contraire, on a l'impression que le mouvement s'inverse et on voit apparaître dans des revues ou dans des traités des termes comme la neuropsychanalyse, comme si la psychanalyse pouvait voisiner ou chercher des explications dans les neurosciences.
Eh bien, je vous remercie, Marc Jeannereau. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La fabrique des idées, publié aux éditions Odile Jacob en mars 2011. Et puis, donc, j'invite nos auditeurs à écouter nos émissions en rapport avec la psychologie cognitive, notamment des émissions avec Stanislas Dehaene, que vous devez connaître, Marc Jeannereau.
Merci.
Merci et à bientôt. Au revoir.
Au revoir.